nzamba
nzambira samirana
Nous sommes samedi 2 octobre 2021, c'est l'heure de suivre le journal sur la radio Inzamba Agathe Kakawe. D'abord les titres. Les enlèvements sont plus que jamais d'actualité. 3 nouveaux cas vous seront rapportés dans cette édition. Un élève du lycée Mwaro kidnappé en plein cours par le responsable provincial des renseignements. Un conducteur de taxi-moto disparu à Bururi alors qu'il s'était rendu à la police pour réclamer sa moto. Et le chef de colline Rubirizi de la commune de Mugina dans la province de Cibitoke disparu alors qu'il venait de répondre à un appel de l'administrateur communal. Une enquête du Focodé conclut à des résultats surprenants. Ces conclusions révèlent en effet qu'après les récentes attaques à la grenade, des Imbonerakure accusés d'en être les auteurs ont aussitôt été exécutés par la police. Et puis les éleveurs de Rubirizi en province de Bujumbura crient à l'injustice. Ils s'opposent à la décision du gouverneur de les chasser de leur site d'élevage. Voilà pour les titres. Joséphine Johnson-Mondimana est au micro. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Arrestation du doyen des élèves du lycée Mwaro. Cela s'est passé hier vendredi. Ikoroku Gomba Justin a été interpellé par le responsable des renseignements en province Mwaro. Son lieu de détention est jusqu'à présent inconnu, même des responsables de l'école. Benny Akselakana nous en dit plus.
L'élève arrêté s'appelle Ikoroku Gomba Justin. C'est un élève de la 3e scientifique. Il est originaire de la zone Buzilachanda en commune Ndava, province Mwaro. Il a été appréhendé aux environs de midi par le responsable du service des renseignements à Mwaro, Eliphaz Nyongabo. Justin était en classe quand ce dernier est venu le chercher à l'école, selon un des témoins.
Il a dit au directeur qu'il venait chercher cet élève. Le directeur a fait venir Justin. Ce chef de la documentation l'a d'abord interrogé, puis l'a amené. Vers 16h30, le même agent du renseignement est revenu avec 3 ou 4 noms des élèves du lycée. Il les a convoqués et les a interrogés. Il a confisqué leurs téléphones et cartes SIM et leur a montré les messages dans leur téléphone et leur destinataire. Ce sont des messages que ces élèves auraient envoyés pendant les vacances.
Difficile de préciser le mobile de cette arrestation et le lieu de détention de Justin Ikoroku Gomba. Nous avons contacté Eliphaz Nyongabo, le chef du service de renseignement à Mwaro, mais il nous a raccroché au nez. De son côté, le directeur du lycée Mwaro a dit que son responsable de la documentation lui a signifié que cet élève a été interpellé pour raison d'enquête sans aucune autre précision. Des sources au sein de la même école révèlent qu'un autre élève originaire de la zone Makamba, commune Lusaka, a été interrogé dimanche dernier par le même responsable du renseignement à Mwaro. C'était quelques jours après l'arrestation dans la même zone du père de cet élève, un retraité des ex-forces armées burundaises avant l'intégration des mouvements rebelles.
Il s'appelle Claude Nzokira, chauffeur de taxi-moto en province de Bururi. Sa famille alerte sur sa probable disparition. Cela fait 4 jours qu'il ne donne pas signe de vie à sa famille. Aux dernières nouvelles, il était parti au bureau du commissariat de police pour récupérer sa moto retenue par la police de roulage. Depuis, il est introuvable, que ce soit dans les cachots ou les prisons de la province. On fait le point avec Raoul Nyengurutse.
Ce jeune homme habite la commune Kiremba, en commune et province de Bururi. La police a d'abord arrêté sa moto sans lui donner la moindre explication. Claude Nzokira a par la suite accompagné les agents de la police au bureau du commissariat pour chercher à connaître les motifs de la saisie et pouvoir régulariser en cas de contravention. Dès lors, il est resté introuvable selon les sources de sa famille.
On a cherché partout, au cachot du commissariat de police à Bururi, jusqu'à la prison centrale de Bururi, partout aucune trace de lui. Alors jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas s'il est emprisonné quelque part ou pas. Et si jusqu'à cette heure-ci, on n'a pas de ses nouvelles, ni des motifs de son arrestation, c'est la panique dans notre famille.
4 jours déjà que Claude Nzokira n'a pas donné signe de vie. L'inquiétude est grande dans la famille et les demande au commissariat de police d'aider à retrouver cet homme.
Nous demandons que la police qui l'a arrêté nous montre où est le nôtre pour qu'on soit aussi informé de quoi on lui reproche.
Suite à ces inquiétudes de la famille de Claude Nzokira, nous avons cherché au téléphone le commissaire provincial de la police à Bururi, Dieudonné Maniragaba, mais il n'a pas répondu à notre appel.
Le chef de colline Rubiridi de la commune Mugina dans la province de Cibitoke a été enlevé ce vendredi. Il avait été appelé par l'administrateur de la dite commune. Aussitôt arrivé, il a été embarqué dans un véhicule qui appartiendrait au service de renseignement en province Cibitoke. Les membres de sa famille demandent qu'il soit informé de l'endroit où se trouve le leur. Les détails avec Vanessa Mohiteka.
Ce chef de colline enlevé ce vendredi s'appelle Deshimi Désiré. Des sources en provenance de Rubiridi indiquent qu'il avait répondu à l'appel de l'administrateur de la commune Mugina pour participer à une réunion de travail. Aussitôt arrivé, on lui a demandé de présenter ses pièces d'identité et a vite été embarqué dans un véhicule qui appartenait au service de renseignement en province d'Iltoki. Les mêmes sources disent que ce chef de colline enlevé n'avait jamais été facilité dans l'exercice de ses fonctions. On lui disait qu'un membre du parti CNL ne peut pas diriger une colline. Comme stratégie, il a viré le parti CNDD-FDD. Depuis 10h de ce vendredi, personne ne sait où se trouve ce chef de colline. Les membres de sa famille demandent qu'on leur dise où se trouve l'heure, car même si on l'accuse de quoi que ce soit, on le traduirait devant la justice. Ils demandent à l'administrateur qu'il a appelé de leur donner la lumière, surtout qu'il a été enlevé en présence des autorités de la commune Mugina. La radio Inzamba, nous n'avons pas pu joindre Julienne Daihaya, administrateur de la commune Mugina, pour qu'elle éclaire l'opinion, mais sans succès.
Des membres de la milice Imbonerakure ont été identifiés parmi les auteurs des récentes attaques à la grenade qui ont fait de nombreuses victimes dans différents coins du pays. Ces jeunes du parti au pouvoir ont été tués aussitôt après leur arrestation par la police, comme le révèlent les résultats des enquêtes du Forum pour la conscience et le développement. Suivez Pacifique Nina Adwe, président du FOCODE.
C'est lundi, le 27 septembre, un milicien Imbonerakure du nom de Dieudonné Habonimana a été arrêté à Kanyosha, au sud de la ville de Bujumbura, où il est dit qu'il venait de lancer une grenade qui avait tué un enfant et blessé plusieurs personnes. Dieudonné Habonimana a été rapidement arrêté, conduit à la zone Kanyosha, où il aurait été interrogé en présence de hauts responsables de la police burundaise à mairie de Bujumbura. Mais ce qui est surprenant, au cours de cet interrogatoire, alors que Dieudonné Habonimana aurait commencé à donner des noms d'autres miliciens Imbonerakure impliqués dans ces crimes, il aurait été mortellement frappé à la tête et serait mort sur le champ. Le lendemain, c'est-à-dire mardi le 28 septembre, un autre milicien Imbonerakure, Nestor Ndagijimana, alias Rasta, a lancé une grenade devant une boutique à Vugizo, dans la zone Gatumba de la commune Mutimbuzi. La grenade a tué sur le champ deux personnes et blessé quatre autres personnes, dont l'épouse de Nestor Ndagijimana. La police a rapidement arrêté Nestor Ndagijimana et l'a conduit vers le cachot, mais en cours de route, la police a décidé de tuer Nestor Ndagijimana. Encore une fois, un autre témoin, auteur et témoin important des crimes en cours au Burundi, a été éliminé par la police. Je rappelle aussi que le lendemain, encore une fois, mercredi, le 29 septembre, une grenade a explosé dans la zone Mitakataka de la commune Ebubanza. Une grenade qui a tué un enfant et blessé un autre. Et il a été dit qu'il s'agissait de deux grenades appartenant à un milicien Imbonerakure du nom de Gérard.
Les trois illustrations du FOCODE suffisent pour conclure que des enquêtes sérieuses sont urgentes pour savoir ce qui sont réellement derrière ces attaques menées par des Imbonerakure. Pacifique Ninina Azoué demande qu'il y ait des experts internationaux parce que le régime en place a échoué de faire ses enquêtes.
Le constat qu'on fait ici, c'est d'abord que parmi les personnes qui ont lancé des grenades ces derniers jours, les seuls qui jusqu'ici sont identifiés sont des miliciens Imbonerakure. Ceci est d'autant plus surprenant qu'il y a une semaine et demie, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandoui, sans aucune preuve, a déclaré que les gens qui lançaient des grenades, c'étaient des militants du mouvement Red Tabara. Il avait par la même occasion, impliquer plutôt certains opposants comme Alexis Ndouhidje et Maître François Nyamoya et l'humanitaire Marguerite Baranghitse comme étant derrière les attaques à la grenade. Et vous vous souvenez aussi que le lendemain, à l'Assemblée générale des Nations Unies, et sur les bases de cette déclaration du procureur général de la République, le président Evariste Ndayishimiye a déclaré que le mouvement Red Tabara est un mouvement terroriste. Alors maintenant, on s'interroge sur le silence des deux autorités du moment que certains des auteurs des attaques à la grenade sont aujourd'hui bien identifiés et que le mouvement auquel ils appartiennent est pour le moment bien connu comme la milice Imbonerakure. Encore une fois, nous demandons qu'il y ait une enquête sérieuse sur ces attaques. Ce serait mieux s'il s'agissait d'une enquête internationale. Enfin, je rappelle que ce qui se passe aujourd'hui nous rappelle ce qui s'était passé en septembre 2011 lorsqu'il y avait eu une attaque à Gatumba contre le bar chez les amis, une attaque qui avait fait 39 morts et qu'après cela, le président Pierre Nkurunziza avait déclaré devant l'Assemblée générale des Nations Unies que c'était ses opposants qui étaient en train de commettre des crimes contre l'humanité et qu'un rapport du Service national de renseignement avait tenté d'impliquer Agathon Gwasa et d'une certaine manière Alexis Ndouhidje encore une fois.
Inzamba.
Le problème de concubinage ou d'adultère rentre dans la vie privée et il appartient au conjoint lésé de saisir la justice. C'est ce qu'indique Vital Chimilimana, juriste de formation. C'est suite à l'ordonnance du ministre de l'Intérieur, Gervais Ndilakobucha, demandant au gouverneur des provinces de suspendre des administratifs en situation d'union illégale ou de concubinage. Pour Vital Chimilimana, le concubinage ne devrait pas être une urgence pour les autorités du pays.
Les multiples décisions et mesures prises par le ministre de l'Intérieur sont caractéristiques d'un état de police où certaines autorités se substituent à la loi et prennent des mesures non pas dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de la communauté, mais pour attaquer, pour freiner, pour atteindre aux droits et libertés des personnes ou d'une catégorie de personnes. On a vu le ministre de l'Intérieur interférer dans plusieurs domaines qui relèvent du commerce intérieur, qui relèvent de la vie privée, tel est le cas aujourd'hui en ce qui concerne l'interdiction du concubinage, qui est en principe au Burundi, existe certes, mais n'est pas un problème au point que ça doit concerner les autorités au très haut niveau. Donc nous pensons que ce sont des mesures qui sont prises pour montrer que l'autorité est en train de travailler, que l'autorité est en train de chercher à moraliser la société. Or, il y a beaucoup d'autres problèmes qui concernent la société aujourd'hui. Le problème de concubinage ou d'adultère rentre dans la vie privée et il appartient au conjoint lésé de saisir la justice pour obtenir la condamnation de l'autre conjoint qui aurait enfreint aux devoirs conjugaux.
Les éleveurs de Rubirizi en commune de Mutimbuzi sont contre la décision du gouverneur de la province Bujumbura les obligeant de céder les lieux de leurs activités. Selon ces éleveurs, cette décision les menera à des pertes financières énormes. Ils disent être en ordre et demandent aux autorités compétentes de privilégier le dialogue avant toute décision. Les détails avec Josine Kadze.
L'élevage en étable à Louilizi est pratiqué juste après la rivière Gikoma. Les éleveurs se sont procurés des propriétés dans cette localité après avoir quitté le quartier Tchalama. Ces éleveurs sont embarrassés par l'ultimatum de Désiré Saviumba, le gouverneur de la province Bujumbura, qui les oblige de déménager ces lieux d'élevage. Suivez l'un des éleveurs en zone Louilizi.
On a été surpris par la décision du gouverneur de la province Bujumbura qui nous intime de quitter d'urgence. Il ne nous a jamais consultés. Il arrive et directement il nous communique la date limite. Nous ne savons pas sur quelle loi il se réfère car nos bétails sont toujours dans les étables. Autre chose, il y a un projet de la Banque mondiale qui donne des vaches aux bénéficiaires à Rubirizi. Nous ne comprenons pas comment une décision peut chasser un groupe de vaches et garder les autres dans une même zone.
comme les zones iméniennes.
Les éleveurs en zone Ruilizi demandent à tous les concernés de privilégier le dialogue à la place des sanctions.
Nous demandons aux autorités compétentes de créer un espace de dialogue pour échanger sur tous les problèmes. Comme ça, nous serons informés sur la cause de cette expropriation alors que nous sommes en ordre avec la nouvelle loi sur l'élevage. Nous demandons au ministère concerné de considérer la correspondance lui adressée pour trouver une solution durable ensemble.
Pour ces lamentations des éleveurs en zone Ruilizi, on n'a pas réussi à joindre par téléphone le gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Sabiyumba. Vous saurez que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement est au courant de ce cas. En date du 18 septembre, ces éleveurs ont adressé une correspondance au ministre lui informant l'état des lieux de l'élevage en zone Ruilizi, commune Mutimbuzi, province Bujumbura.
Dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous allons parler de la production des agriculteurs après l'utilisation des fertilisants organominéraux de FOMI. Émile Nivasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agate Kakawe, Radio RPA Ijuya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Depuis environ 2 ans, les Burundais utilisent les fertilisants organominéraux de FOMI dans leur culture. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 2 octobre 2021, nous avons demandé aux agriculteurs d'évaluer leur production après l'utilisation de cet engrais produit localement. Vous êtes avec Émile Nivasumba, bienvenue. Dans notre émission du 8 août 2020, c'était l'année passée, les agriculteurs se sont plaints à cause d'une faible production après l'utilisation des engrais fabriqués par l'usine FOMI. Une année venait de s'écouler après le début de l'utilisation de ces fertilisants organominéraux. Aujourd'hui, 2 ans après le lancement de l'utilisation de ces engrais, nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance on parlait aux agriculteurs des provinces Mwaro et Kayanza.
L'engrais organominéral de l'usine FOMI est plus efficace que l'engrais chimique qu'on utilisait auparavant. Je ne sais pas si le fait que j'utilise l'engrais depuis longtemps y est pour quelque chose, mais mon constat est que pour le moment que j'utilise l'engrais de l'usine FOMI, je produis une grande quantité de pommes de terre par rapport à celles que j'avais avant.
Sur une superficie qui nous coûtait 1 kg de l'engrais chimique DAP, il nous faut 2 kg d'engrais de l'usine FOMI. La production aussi n'est pas la même. Si c'était possible, on utiliserait l'engrais chimique DAP. Le nouvel engrais de l'usine FOMI est plus exigeant en quantité.
Après le lancement de l'utilisation des fertilisants FOMI, certains experts de l'usine FOMI et du ministère de l'Agriculture nous avaient révélé que le gouvernement s'était précipité pour des raisons politiques alors qu'il n'avait pas encore finalisé les analyses, surtout au niveau de la composition. Aujourd'hui, ces experts nous ont dit qu'il n'est possible d'évaluer ces fertilisants qu'au bout de 3 ans au minimum après le lancement de leur utilisation. L'évaluation au bout de 5 ans, c'est encore mieux selon ces experts qui expliquent qu'aujourd'hui, ces analyses ne sont plus possibles comme le gouvernement a unilatéralement décidé de démarrer le projet. L'un des experts de l'usine FOMI nous a également précisé que pour le moment, personne n'est capable de dire que l'augmentation ou la réduction de la production est causée par ces fertilisants organominéraux parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Dans notre prochaine émission, nous parlerons d'un papier scientifique publié par d'autres experts sur l'utilisation des engrais au Burundi, y compris les fertilisants FOMI. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société. Vous étiez avec Émile Nivasumba. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
On termine, comme tous les samedis, par la revue de la presse hebdomadaire. C'est avec Jean-Marie Ndabashinze.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Commençons cette revue de presse par cette libération ce vendredi de l'ancien député Fabien Antiganino. Le journal Iwachu écrit dans ses colonnes qu'après plus d'une année d'emprisonnement, l'ex-député de la coalition Amizero Y'Abarundi est désormais libre. La nouvelle est tombée ce vendredi vers 12h30. Il était détenu à la prison centrale de Mimba depuis le 8 octobre 2020. Il avait été condamné par le tribunal de grande instance de Nahangwa à une année de prison ferme et devrait payer une amende de 100 000 francs burundais. Cet ancien élu de la circonscription de Bubanza était poursuivi pour rébellion, dénonciation calomnieuse et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Fabien Bantiganino est connu pour son franc-parler lorsqu'il siégeait à l'Assemblée nationale, poursuit le journal Iwachu. Entre-temps, dans l'agence d'information SOS Média, on peut lire que 13 rebelles rwandais sont détenus par le service national de renseignement burundais dans la capitale économique Bujumbura. Selon les sources de ce journal, tous ces rebelles avaient été dénoncés par les habitants dans les communes de Mabayi et Bukinanyana. Nous sommes en province de Cibitoki, à l'ouest du Burundi, et arrêtés par les militaires. Ces informations disent que lors de l'arrestation, ces individus ont affirmé appartenir à un groupe rebelle rwandais et ont été appréhendés après des affrontements avec les militaires dans la réserve naturelle de la Kibira. Pour l'instant, les renseignements n'ont pas encore envisagé une probable remise de ces hommes aux autorités rwandaises. SOS Média note que ces derniers temps, le Burundi et le Rwanda échangent des suspects et des rebelles arrêtés sur les territoires des nations sœurs de la région des Grands Lacs. Dans le journal SOS Média, on écrit également que les patrouilles des Imbonerakure armées font peur aux habitants de la province de Kirundo. Les habitants des différents quartiers de ce chef-lieu de cette province trouvent qu'il y a un mouvement inhabituel de jeunes du parti au pouvoir pendant la nuit, armés pour la plupart de machettes, de gourdes, de couteaux et de fusils pour les responsables. Ils sont supervisés par les agents de services de renseignement et les policiers. Les habitants se disent terrifiés par ce mouvement qui se manifeste après les attaques à la grenade dans les différentes localités du pays, poursuit l'agence SOS Média. Et puis dans le domaine de l'économie, lit-on, le représentant du Burundi dans Trade Market East Africa, Christian Irasumba, a confié au journal Jeune Afrique que l'organisation aide les pouvoirs publics et les acteurs privés à se moderniser afin de développer les échanges transfrontaliers. La mission principale étant de renforcer l'intégration régionale à travers les échanges commerciaux. Christian Irasumba a révélé que son organisation dispose 1,1 milliard de dollars pour investir dans les projets définis en accord avec les bailleurs européens et américains. Il a ajouté que Trade Market East Africa travaille aujourd'hui dans 13 pays à travers le continent. Et pour boucler cette revue de presse, le journal Iwachu note des craintes de la population de la mairie de Bujumbura sur la stabilisation permanente qui sera bientôt mise en vigueur. Ce quotidien d'information écrit à quelques jours de la mise en application de cette loi, les citadins s'attendent à une hausse de prix du lait et se plaignent déjà. Certaines boutiques qui vendent ce produit auraient d'ailleurs averti leurs clients que suite à cette loi, un litre de lait passerait de 1800 à 2000 francs burundais. Les éleveurs disent aux clients qu'ils ne seront plus leurs fournisseurs et demandent aux abonnés de se préparer déjà en conséquence. C'est la fin de cette revue de presse. Jean-Marie Ndabashinze vous l'a présenté. Passez un bon week-end. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est ici que prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba Gate Kakawe pour la production de ce journal. Un grand merci à vous également, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.